Europe 1.
Soyez les bienvenus dans la France Bouge Academy. Ici, vous le savez, vos idées sont au pouvoir. Notre ambition, montrer à ceux qui nous écoutent que tout le monde peut créer, peut imaginer la société de demain. Alors, si vous avez un projet, eh bien, c'est très simple. Vous nous écrivez, Céline, pour venir le défendre.
Oui, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et ensuite, notre équipe vous attendra ici même dans les studios d'Europe 1 pour ausculter votre projet. Elisabeth Assayag est là. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, Raphaël. Bonjour à toutes et à tous.
Nos experts aussi, en tout cas, un de nos experts est là pour l'instant. C'est Olivier Rameil. Bonjour, Olivier.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Directeur d'investissement au sein du pôle numérique de BPI France. On attend d'ici une petite minute Frédéric Mazella.
Il se fait désirer, Frédéric Mazella.
Oui, fondateur de Blablacar qui va nous rejoindre dans un instant. Et face à nous, eh bien, je vous présente Boris Courtet. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Neo Experience. Vous avez 42 ans, vous venez de Normandie. Et vous commercialisez depuis la fin de l'année dernière, depuis fin 2019, des aires de jeux nomades et interactives grâce à vos projections. On peut par exemple jouer au foot en famille ou entre amis, mais pas seulement. Je vous laisse nous expliquer ce qu'on peut faire, comment ça marche et surtout où vous en êtes. Vous avez 1 minute 30.
Avec plaisir. Donc, je suis à l'origine passionné par le loisir et l'activité sportive depuis mon enfance. Et j'ai tiré un constat, c'est que globalement, les nouvelles technologies avaient tendance à la fois à nous isoler et à nous limiter dans la pratique de nos activités, à la fois physiques et collectives. Donc j'ai eu l'idée d'associer à la fois les nouvelles technologies et le jeu vidéo pour créer un nouveau concept tournant autour des activités immersives et interactives. J'ai donc créé la société Neo Experience, qui est actuellement composée d'une dizaine de collaborateurs pour développer ce concept. Le résultat, c'est notre innovation Neo One qui est disponible sur le marché, comme vous l'avez indiqué, depuis la fin 2019 et qui permet de transformer n'importe quel mur en espace de jeu de manière à la fois ludique et de manière interactive. Donc ces espaces permettent à la fois de partager une expérience entre amis, en famille ou avec des collègues et également la possibilité de, entre guillemets, jouer à différents jeux qui correspondent à différents univers et différentes possibilités d'évolution au sein des espaces. Le produit permet également de s'adapter à différents environnements et notamment à des opérateurs du secteur du sport, du loisir, de l'événementiel et du commerce en leur permettant de modifier à souhait les activités à l'intérieur de l'espace et d'attirer des nouveaux publics, voire de fidéliser également des clients existants.
Voilà pour le pitch. On va voir ce qu'en pensent nos experts, puisque ça y est, Frédéric Mazella nous a rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, on va commencer par Olivier. On va vous laisser le temps de vous installer. Olivier, qu'est-ce que vous pensez de Neo Experience ? Est-ce que vous avez bien compris le système, le mur, et on fait presque ce qu'on a envie avec ?
Non, bah, bravo Boris, déjà l'explication était très claire. Et bravo également de s'adresser à la réalité augmentée. Nous, on a deux sociétés dans le portefeuille qui sont sur ce sujet. Je pense qu'il y a encore matière à faire. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment est-ce que vous allez attirer de la croissance sur ce modèle, parce que vous allez vendre soit du hardware, soit une pièce entière dans laquelle on peut expérimenter votre produit. Comment est-ce que vous allez être capable de créer beaucoup de vélocité cette croissance et d'aller chercher vraiment une explosion un petit peu de cette croissance ?
Alors, l'objectif déjà, c'est de répondre aux attentes du marché. Il y a actuellement deux besoins principaux. Le premier, c'est d'équiper un espace existant. Donc typiquement un mur, on le transforme de manière assez simple en intégrant notre technologie. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est en créant des arènes qui sont dédiées à nos usages et qui vont permettre à la fois de personnaliser l'expérience et d'intégrer les contenus de manière assez simple et efficace. Ensuite, on a effectivement une volonté de créer des nouveaux contenus. Donc globalement, ce que recherchent nos opérateurs principalement, c'est de renouveler régulièrement les expériences. Et le fait qu'on soit sur de l'activité numérique nous permet très simplement de créer des nouvelles activités, voire des nouvelles attractions chez nos clients.
Par exemple, je peux transformer le hall d'entrée d'Europe 1 en salle de... terrain de foot.
Une demi-journée d'installation, on installe un capteur au mur, un vidéoprojecteur, et puis c'est parti, vous jouez.
On joue au foot ou au basket ou
alors,
à d'autres choses.
Pas exclusivement du sport, on a par exemple des expériences qui sont plutôt sur le thème de la nature, donc pour sensibiliser à la protection animale. On va avoir un jeu qui est en cours de développement, qui sera finalisé prochainement, qui va permettre, entre guillemets, de sensibiliser également au nettoyage des océans, à l'élimination des déchets, etc. Donc par ce biais, on peut à la fois jouer, on peut éduquer, et on fait surtout de l'activité physique en s'amusant et en partageant une expérience. Donc ça crée un vrai lien social, en fait.
Donc ça marche pour le team building aussi, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise également.
Ça peut fonctionner pour l'événementiel et notamment le team building.
Frédéric Mazella.
Oui, quelles sont aujourd'hui les installations qui marchent le mieux, c'est-à-dire là où vous avez le plus de clients, le plus de, répondants?
C'est un produit qui est sur le marché depuis deux mois, hein, globalement. Donc on a vendu nos produits dans le secteur du loisir, notamment auprès de centres de loisirs, hein, d'équipements de loisirs, donc parcs de jeux enfants, parcs de réalité virtuelle en complément des activités existantes. On va installer un parc aquatique, hein, dans le sud-est de la France. Et on a aussi énormément de demandes sur la partie événementielle, hein, puisqu'on a animé notamment le village d'une enseigne spécialisée dans le sport. On a également animé un match de football professionnel et on doit être référencé d'ailleurs dans les animations de la Ligue de football professionnel. Donc on a ces deux vecteurs, à la fois le développement d'installations fixes et également l'opportunité de développer des activités en événementiel.
Olivier ?
Une petite question, si on se projette dans 2-3 ans, un petit peu, quelles sont les nouvelles innovations qui pourraient arriver dans ce domaine-là et qui sont vraiment une nouvelle expérience unique que vous allez proposer?
Alors, typiquement, on est capable d'immerger complètement l'utilisateur dans un environnement et lui proposer une expérience de jeu qui permettra de se substituer, par exemple, à la réalité virtuelle, puisque aujourd'hui, notre technologie permet, entre guillemets, des développements sans accessoires, sans casque et sans opérateur. Donc ça, on a, entre guillemets, l'opportunité de révolutionner à la fois le secteur du divertissement et la pratique, surtout de l'activité physique qui vient sous-jacente à nos activités.
Elisabeth ?
Je pense qu'en vous écoutant, vos clients, là où vous avez, j'ai l'impression, le plus de marché, c'est au niveau des entreprises.
Alors, le marché, c'est nos clients, c'est les entreprises qui achètent nos produits et qui après les mettent à disposition d'utilisateurs qui viennent partager un moment de convivialité et d'activité.
Notamment pour les team building, davantage que pour les centres de loisirs. Je pense qu'il y a plus à faire dans ce domaine-là.
Le marché, nous, on a vraiment choisi la partie entertainment parce qu'il y a effectivement à la fois une surface financière qui permet d'investir et à la fois la possibilité de développer nos contenus et les expériences et surtout de les renouveler.
Frédéric Mazella.
Oui, alors je n'ai pas pu encore essayer, mais est-ce que quand on se promène du coup dans les espaces que vous créez, on voit son ombre ou bien, enfin, comment c'est fait technologiquement? Alors, comment vous faites pour que, si c'est un vidéoprojecteur,
une ambiance aquatique,
tout est fait en Normandie, hein, je précise.
Les produits sont assemblés effectivement en Normandie. Alors il y a que les composants, hein, qu'effectivement on ne fabrique pas. Typiquement, on utilise une technologie de vidéoprojecteur qui permet effectivement de restreindre ces problématiques d'effet d'ombre, puisqu'on est sur de l'ultra courte focale. Qui permet à la fois aux joueurs de l'agrément puisqu'on évite ce problème d'ombre portée et également potentiellement de jouer de manière tactile en touchant le mur sans qu'il y ait de contraintes particulières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est en train aussi de finaliser un prototype qui nous permet de transformer n'importe quelle vitre en aire de jeu interactive avec un système de rétroprojection. Donc on a effectivement dans ce cadre-là plus du tout de problématiques d'ombre portée qui peuvent apparaître notamment avec la rétroprojection, la vidéoprojection.
Olivier Ramey.
Non, je veux dire, on va bientôt pouvoir jouer dans les voitures, quoi.
Alors nous, ça demande un peu d'espace qu'on utilise notamment
quand
des ballons.
Quand on pourra lâcher les volants, hein.
voilà. Avant. Effectivement, il y a des contraintes de sécurité. Par contre, on pourrait sensibiliser par le biais du jeu à la sécurité routière, par exemple.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de Neo One, développé par Neo Experience en Normandie. Vous nous donnez évidemment de vos nouvelles et des nouvelles de votre développement.
Avec plaisir.
Il est 12h38. Europe 1. Il y avait le 100% Made in France. Patrimoine a l'ambition de faire du 200% tricolore. Sa créatrice nous en dit plus dans un instant. A tout de suite. La France Bouge Academy, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur, que vous souhaitez nous parler de votre projet, rejoignez-nous sur Europe 1 en nous écrivant par mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Raphaël. Et demain, vous serez peut-être avec nous pour défendre votre projet. Notre seule ambition est de vous montrer que si le monde change, c'est parce que des hommes et des femmes créent, innovent et que ce qu'ils ont dans la tête peut devenir réalité. C'est votre cas. Aurélie Sévo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 35 ans, Aurélie.
Oui.
Et c'est un grand jour parce que je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est mon anniversaire,
bon anniversaire
aujourd'hui. Merci.
Donc, on est encore plus ravis de vous recevoir. Vous avez lancé Patrimoine, une marque de vêtements éco-responsable pour hommes et pour femmes. Et vous dites, nous, notre ambition, c'est de faire du 200% tricolore. Votre marque existe depuis janvier 2019. Alors, en quoi êtes-vous différente des autres? Et comment allez-vous vous faire votre place sur ce marché qui est de plus en plus important? On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Alors, Patrimoine, donc, c'est une marque de vêtements éco-responsable pour hommes et femmes. En fait, à l'arrivée de notre premier enfant avec mon mari, on s'est demandé ce qui était sain pour notre enfant. Donc on est passé à une alimentation biologique et locale. On a regardé la composition de nos produits d'entretien, d'hygiène. On a réduit nos déchets, donc comme bon nombre d'entre nous. Et quand on a voulu appliquer ces critères de bio et local à l'habillement, Là, on a trouvé que l'offre textile était floue. On avait des difficultés à s'y retrouver entre ce qui tenait du greenwashing, ce qui tenait du frenchwashing. Bref, on ne trouvait pas une offre qui nous correspondait. Donc, en janvier 2019, on a décidé qu'on allait se jeter à l'eau et lancer notre propre marque de vêtements, Patrimoine. Donc, Patrimoine utilise que des matières biologiques, qui ont été cultivées sans pesticides. Donc, elles sont saines pour l'homme et pour l'environnement. Elles sont certifiées, donc il y a une traçabilité du champ au consommateur final. Il y a également un suivi des conditions de travail. Ces matières sont produites en France et nos vêtements sont également confectionnés en France. Donc c'est là qu'on dit qu'on fait du 200% made in France. Il y a la confection des vêtements, mais il y a également les matières qui sont produites en France. Ceci dans le but de participer à l'économie française, à soutenir l'emploi et également, point important pour nous, à limiter l'impact carbone de nos collections.
Alors voilà pour le pitch qui est terminé. Je vais vous demander juste de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Et je vais me tourner vers nos experts pour savoir ce qu'ils pensent de Patrimoine 200% française. Frédéric Mazella.
Oui, alors bravo. Je pense que c'est bien d'encourager. C'est exactement ce dont on a besoin. Est-ce que vous avez l'impression d'être seul sur votre créneau ou bien vous avez déjà des petits copains à côté?
On a des petits copains, c'est sûr. Après, quand on a décidé de lancer la marque, c'est parce qu'on ne trouvait pas l'offre qui nous correspondait. Donc, on s'est dit qu'on n'était pas les seuls. Effectivement, on a lancé le projet en janvier, mais la marque a été lancée officiellement au Salon du Made in France en novembre 2019. Donc, ça fait 2 mois. Les retours des clients sont très bons. Donc, je pense qu'on répond quand même à un besoin sur ce marché. C'est un marché qui n'est pas encore saturé, loin de là. En 2018, il y a 20% des consommateurs qui ont acheté de la mode responsable et en même temps, ils avaient du mal à trouver ce qui leur correspondait. Donc,
quand vous parlez de marché, ça veut dire que vous avez des gens qui spécifiquement sont intéressés par le 100% ou même le 200% made in France. Et donc ça, c'est déjà identifié, ça grandit comme population? Comment vous mesurez ça?
Je pense que ça grandit et en fait, je pense que le secteur du textile va suivre la même évolution que l'alimentaire. Au début, l'alimentation biologique, c'était anecdotique, ça a grandi, on connaît aujourd'hui les chiffres. Et je pense que le textile va suivre la même évolution en termes de matière et en termes de local aussi.
Olivier Rameil.
Déjà, bravo Aurélie, très bon secteur. Je crois que la fabrication textile est un des plus grands pollueurs de la planète. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement, on vient de parler un peu de ta cible, tes clients, comment est-ce que tu vas aller les toucher? J'imagine que fabriquer en France, malheureusement, coûte un petit peu plus cher. Comment est-ce que tu vas arriver à être à la fois compétitif sur un prix, sachant qu'aujourd'hui, quand même, les gens ont tendance à acheter facilement des vêtements à bas prix et avoir changé leur attitude et renouvelé régulièrement leur garde-robe?
Oui, alors... Déjà, comment on va les toucher? C'est via des salons, c'est en les rencontrant, des événements locaux ou à thème, et via les réseaux sociaux. On a des exemples récents de réussite de marques de vêtements via les réseaux sociaux, donc pourquoi pas nous. Après, sur le positionnement, prix, c'est sûr que le Made in France a un coût.
Un t-shirt par exemple 100% coton, c'est 39 euros, c'est ça?
Voilà,
une marinière, 69 euros, pour donner un ordre d'idée.
Voilà, exactement. On a essayé quand même d'avoir des prix contenus. On est plus cher que ce que peut proposer la fast fashion. Voilà, après on essaye de pas que nos prix ne s'envolent pas.
C'est produit en France, redisons-le, et c'est fabriqué. Voilà. Donc les deux étapes sont ici, dans l'Hexagone.
Voilà, quand vous achetez un produit Patrimoine, vous irriguez à 100% l'économie française. Et donc, vous soutenez l'emploi aussi des Français.
D'où le nom?
D'où le nom. Alors, le nom, c'est un clin d'œil, effectivement, au savoir-faire français textile. Et c'est aussi, nous, on a lancé cette marque dans une démarche éco-responsable. Le patrimoine, c'est ce dont on hérite. C'est ce qu'on va aussi léguer aux générations futures. Et nous, on fait ça aussi pour préserver l'environnement. Donc, voilà.
Et je précise que vous êtes sur une seconde collection qui sera tournée vers l'enfant, hein, c'est ça?
Alors oui, ça fait partie des projets futurs. Voilà, nos projets, c'est davantage de local. Donc là, on va travailler du lin français. Là où la collection actuelle, c'est du coton. Et effectivement, on a beaucoup de demandes sur l'enfant. Donc essayer de développer ce créneau-là également.
On ne vous a pas posé la question, Aurélie Boris, mais vous avez besoin peut-être de combien en capital pour pouvoir aller et dépasser les prochaines milestones intéressantes de votre projet ?
Alors, pour le moment, on n'a pas fait de campagne de crowdfunding. On s'était donné un créneau très court quand on a lancé le projet en janvier 2019. On voulait avoir un stand au Salon du Made in France en novembre. Donc, on n'avait pas le temps d'avoir des prototypes et de pouvoir lancer une campagne, communiquer, etc. On envisage éventuellement de le faire sur des prochains modèles, en fait. Pourquoi pas le lin. Et donc, du coup, on a fait un prêt bancaire classique. Aujourd'hui, on n'a pas encore demandé de fonds supplémentaires.
Ça s'appelle Patrimoine pour transmettre aux nouvelles générations. Vous nous donnez, bien sûr, de vos nouvelles. Merci, Olivier Ramey, d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur d'investissement au sein du pôle numérique de BPI France.
Et il est midi 49.
Europe 1.
On reste ensemble. Hein. Airbnb communal, ça existe. Mamerilou.fr, c'est la solution avec Elisabeth Assayaga tout de suite.